les midis sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nouvel épisode aujourd'hui du Printemps des Poètes Confinés. Le Printemps des Poètes Confinés est composé à partir des poèmes, slam, chansons que vous nous envoyez par mail. Merci à tous les participants, voilà, qui nous ont permis déjà de faire 3 méridiennes du printemps des poètes confinés. N'hésitez évidemment surtout pas à continuer de nous envoyer vos créations, vos enregistrements au téléphone portable, ça marche très bien. Vous pouvez les envoyer à melissa@radiocampustour.com et si vous ne pouvez pas vous enregistrer, n'hésitez pas à m'envoyer le texte. Je me ferai un plaisir de le lire. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre les lectures de Guillaume Virentin, Audrey Léauté, Daniel Begdad et Mathilde Marson, Jean-Pierre Barbossa, Alain Cochard. Nous aurons aussi le grand plaisir d'entendre la mer grâce à Radio U, la Radio Campus de Brest, qui propose un paysage sonore. Chers auditeurs, il me reste à vous souhaiter un beau moment de poésie.
Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé, dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains que je sois sauvé. Lorsque je les prends, à mon pauvre piège, de paume et de peur, de hâte et d'émoi, lorsque je les prends, comme une eau de neige qui fond de partout dans mes mains à moi. Sauras-tu jamais ce qui me traverse, ce qui me bouleverse et qui m'envahit? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli? Ce que dit ainsi le profond langage, ce parler muet de sens animaux, sans bouche et sans yeux, miroir sans image, ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent, d'une proie entre eux un instant tenu, sauras-tu ce que leur silence, un éclair aura connu d'inconnu. Donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme, si taise le monde au moins un moment. Donne-moi tes mains que mon ami dorme éternellement.
Charles Baudelaire, au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remue, aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons la mort, dans nos poumons descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants desseins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
Il avait non corne de roc, au guet, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au guet, au guet, il avait non corne de roc. Au guet, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au guet, au guet, en le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête. Corne de roc, mais que le bon Dieu lui pardonne. Au guet, au guet, c'était celle du robinet. Au guet, que le bon Dieu lui pardonne. Au guet, c'était celle du robinet. Au guet, il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'Europe, il potassait à la chandelle. Au guet, des traités de maintien sexuel. Au guet, et sur les femmes nues des musées. Au guet, faisait le brouillon de ses baisers. Au guet, petit à petit. Au guet, on a tout su de lui. Au guet, on a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir un myosotis à une fille. Corne d'Europe, qu'il avait un petit cousin. Au guet, au placé chez les argousins. Au guet, et que les jours de pénurie. Au guet, il prenait ses repas chez lui. Au guet, c'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique. Corne d'Europe, parce que c'était à un Allemand. Au guet, qu'on devait le médicament. Au guet, parce que c'était à un Allemand.
au guet qu'on devait le médicament. Au guet, il rendit comme il put son âme machinale, et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit des funérailles nationales. Corne d'Auroch, alors sa veuve en gémissant, au guet coucha avec son remplaçant. Au guet, alors sa veuve en gémissant, au guet coucha avec son remplaçant. Au guet.
Le Roubaïat d'Omar Khayyam. Extrait. Certains que nous aimions, les plus beaux et les meilleurs qui soient sortis de la presse à vendange du temps ont bu leur coupe, une ou deux tournées avant nous et, un par un, en silence, ont gagné le repos. Et nous qui, maintenant, festoyons dans la salle qu'ils quittèrent, alors que l'été se pare de fleurs nouvelles, voici que nous devons nous-mêmes descendre sous la couche de la terre, pour servir de couche, à qui ? Souvent, je songe que jamais la rose ne fleurit plus rouge qu'à l'endroit arrosé du sang de quelque César enseveli, que chaque jacinthe qui part le jardin tomba de quelque tête qui fut belle un jour, et cette herbe délicieuse, dont le ver vivant recouvre d'un tapis le bord du fleuve où nous reposons, ah ! Appuie-toi légèrement sur elle, car qui sait si elle n'est pas née d'une invisible lèvre qui fut charmante jadis. Ah ! Profite du temps que nous avons encore devant nous, avant de descendre nous aussi dans la poussière, dormir sous la poussière, poussière dans la poussière, sans vin, sans chanson, sans chanteur et sans fin. Et à ceux qui préparent aujourd'hui, et à ceux qui songent à quelque demain, un muezzin crie de la tour des ténèbres, « Insensé ! Votre récompense n'est point ici, ni là-bas. » Une autre voix, dans mon sommeil, s'écrie, « La fleur devrait s'ouvrir au ciel de chaque matin. » Mais je m'éveille, et un murmure effacé répond, « La fleur qui a fleuré une fois, meurt à jamais. »
Phèdre, acte 1, scène 3. Phèdre. N'allons point plus avant, demeurons, chère Eunone, je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas, elle s'assied. Eunone, Dieu tout-puissant, que nos pleurs vous apaisent. Phèdre, que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent, quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Eunone, comme on voit tous ces vœux, l'un l'autre se détruire, vous-même, condamnant vos injustes desseins, tantôt à vous parer, vous excitiez nos mains, vous-même, rappelant votre force première, vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. Vous la voyez, madame, et prête à vous cacher, vous haïssez le jour que vous veniez chercher. Phèdre, noble et brillant auteur d'une triste famille, toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Eunone, quoi ? Vous ne perdrez point cette cruelle envie ? Vous verrai-je toujours, renonçant à la vie, faire de votre mort les funestes apprêts ? Phèdre, Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière ? Eunone, quoi, madame ? Phèdre, insensé, où suis-je et qu'ai-je dit ? Où laissais-je garer mes vœux et mon esprit ? Je l'ai perdu, les dieux m'en ont ravi d'usage. Eunone, la rougeur me couvre le visage. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs, et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs.
oh ma mère, oh ma planète. Merci pour le rouge et le vert, le bleu au-dessus de nos têtes, l'or jaune des sables des déserts, pour les couleurs de l'arc-en-ciel, le blanc des neiges éternelles, et pardon pour les fées de sel. Ô ma mère, ô ma planète, merci pour l'été et l'hiver, et pour le soleil qui se lève, pour l'immensité de la mer, pour l'eau si claire des rivières, pour nos plaines et nos montagnes, et pardon pour les forêts en flammes. Merci pour le chant des oiseaux, pour la truite qui fend l'eau, pour le papillon, pour l'abeille qui patiemment fait notre miel. Pardon si trop peu je m'intéresse à l'extinction des espèces. Je ne suis pas blanc comme neige, les rois qui tournent sur ce manège, d'où l'on gouverne l'univers, leur ai-je assez dit leur affaire d'arrêter les conflits, les guerres, car la planète est prioritaire. Pour parfaire mon autocritique, quant à moi, le verre, le plastique, je les trierai avec grand soin. Je prendrai des douches, plus de vin. Je ne serai plus qu'un je m'en foutiste, mais un parfait écologiste. Ô ma mère, ô ma planète, merci pour le rouge et le vert, merci pour l'été et l'hiver, et pardon pour les fées de serre.
Oh, c'est bien.
Je me suis converti à l'écologie.
C'est bien.
Nous allons commencer par la lecture d'une histoire d'amour. Macadam. Extrait du livre du même nom de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Au Diable Vauvert. L'averse avait redoublé de violence à l'arrivée de la jeune femme sur le parking. Les gouttes s'abattaient depuis 5 bonnes minutes sur le toit de la voiture en un staccato continu. Par-delà le rideau de pluie, le macadam semblait se dissoudre dans l'air en un vaste lavis gris sur gris. Mathilde avait un temps espéré que le type s'était peut-être dégonflé, qu'après mûre réflexion, il avait finalement opté pour le lapin, un bon vieux lapin posé dans les règles de l'art. Cette éventualité avait volé en éclats à la vue du break jaune garé près de l'entrée du restaurant. À présent, la jeune femme attendait une accalmie pour quitter la chaude atmosphère de son véhicule. L'averse n'était qu'un prétexte pour repousser l'échéance du tête-à-tête. Elle le savait pertinemment. C'était la trouille qui la faisait retarder le moment où il faudrait s'arracher de son siège pour traverser le parking. Les questions se bousculaient dans sa tête. Comment allait-il réagir? Allait-il éclater de rire? Partir offusqué sans même un mot ni un regard pour elle? S'enfuir en criant qu'il y avait eu tromperie sur la marchandise? La laisser s'attabler, le temps d'une brève explication, histoire de lui montrer son désappointement puis l'abandonner à son triste sort comme une vieille chaussette? Ou rester? Mais rester pourquoi? Par simple curiosité? Pour vivre une expérience qui sortirait de l'ordinaire? Et pouvoir raconter à ses potes la putain de drôle d'aventure qu'il avait vécue? Pour jouer avec elle, comme un chat qui s'amuse d'une souris, le seul moyen de le savoir était d'y aller. À une vingtaine de mètres, les fenêtres du restaurant brillaient de mille feux. 20 mètres qu'elle allait devoir parcourir, qu'elle allait devoir franchir à découvert dans la lumière des lampadaires. 20 mètres à subir les regards qui n'allaient pas manquer de se poser sur son corps et de se planter dans ses chairs, comme autant de morsures. Elle frissonna. Depuis l'accident, il n'y avait plus qu'à son travail que la jeune femme supportait le regard des autres. Aujourd'hui, l'humanité tout entière avait défilé devant elle. Des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des petits, des gros, des noirs, des blancs, des jaunes, des rougeaux,
des bronzés, des polis, des géniards, des taiseux, des dragueurs, des hautains, des timides, des empruntés, des connards, des comiques, des belles, des moches, des vulgaires, des lents, des pressés. C'étaient les pires, les pressés, toujours à vouloir que la barrière se lève avant même le premier euro versé. Elle s'en foutait, Mathilde. Elle ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Pressée ou pas, elle devait se contenter de suivre mot pour mot le script élaboré par les têtes pensantes de la société des autoroutes de Paris-Rhin-Rhône. Saluer le client, annoncer d'une voix polie le montant à régler pour avoir foulé le précieux ruban d'asphalte, remercier de cette même voix polie le conducteur une fois l'encaissement effectué. Élever cette saleté de barrière blanche et rouge tout en souhaitant au conducteur une bonne route de la part de l'APRR. Des échanges qui ne devaient pas excéder le temps de référence fixé en début d'année par son responsable lors de son entretien de progrès et qui était de 14 secondes exactement en ce qui la concernait. Selon le dernier suivi mensuel, elle était encore à plus de 3 secondes de son objectif. Mathilde emmerdait son objectif. Elle ne manquait jamais de glisser une petite phrase supplémentaire au milieu du plan du dialogue lorsqu'elle en avait l'occasion. Prolonger les sourires plus que de raison, rendre la grimace au gamin qui lui tirait la langue, saluer ceux qui lui faisaient coucou, effleurer du doigt les mains qui lui tendaient les tickets de péage, toucher des paumes lors du rendu de la monnaie, se cramponner au regard avant qu'il ne s'envole. La jeune femme affichait un comportement qui allait à l'encontre du rendement. Elle en était bien consciente. Mais la nouvelle Mathilde se foutait des consignes. La nouvelle Mathilde avait soif de contact, qu'il soit visuel ou tactile, fût-il bref. Et puis, 3 secondes, ce n'était pas la lune. Si cela ne leur plaisait pas que le signal lumineux de la file numéro 12 reste rouge un peu plus longtemps que les autres, ils n'avaient qu'à lui dire en face. Mais on ne lui disait plus rien en face à Mathilde, pas même le responsable de zone, ce même responsable qui, avant l'accident, n'aurait jamais manqué une occasion de lui balancer une vanne graveleuse et pleine de sous-entendus en la regardant droit dans les seins et qui, à présent, l'évitait comme une pestiférée. Jamais Mathilde n'aurait imaginé un jour regretter le temps béni où ce pervers matait son cul dès qu'elle avait le dos tourné. Aussi, lorsqu'un conducteur tentait un plan drague, elle en jouait Mathilde. Papillonnée de toutes ses paupières, minaudée, jouait les vierges effarouchées, elle savourait l'instant, avant de se faire dégager le prince charmant d'un lever de barrière expéditif. « Si tu savais mon beau, tu ne gaspillerais pas ta salive à essayer de me séduire », pensa-t-elle avec dépit. Parfois, un véhicule semait dans son sillage une insulte jetée par une vitre baissée. Mathilde recevait ses petites bulles de haine comme autant de cadeaux. Personne jamais n'aurait osé l'insulter en dehors de ces quelques mètres cubes d'air puants dans lesquels elle marinait les jours de travail. À l'extérieur, elle n'avait droit qu'à de l'apitoiement, de la compassion, voire au mieux, de l'indifférence. Lorsqu'elle avait repris le travail 5 mois plus tôt, la cabine numéro 12 était aussitôt devenue sa cabine. Étant la plus facile d'accès, ça s'est fait naturellement. Une sorte d'accord tacite passé avec ses collègues, sans que personne n'y trouve à redire. C'était devenu l'endroit qu'elle aimait le plus au monde. La cabine n'avait pourtant rien d'idyllique. Les jours de canicule, le ventilateur posé à ses pieds, même réglé à la vitesse maximum, peinait à rafraîchir l'air surchauffé, emprisonné entre les parois de tôle. En hiver, le radiateur poussif ne parvenait jamais totalement à contenir le froid qui soufflait le vent du nord lorsqu'il s'engouffrait en vagues glaciales sous le vent. Sans parler des gaz d'échappement, des vapeurs d'essence qui, en toute saison, rampait sournoisement jusqu'à elle pour venir lui irriter la gorge et lui brûler les yeux, accompagné des innombrables coups de klaxon et pétarades qui agressaient ses tympans. C'était le prix à payer pour laisser à l'extérieur l'autre Mathilde. Celle qui s'aventurait le moins possible hors de son appartement, celle qui sursautait à chaque sonnerie de téléphone, qui passait ses jours de repos cloîtrée chez elle en pyjama à faire l'autruche, le nez plongé dans ses bouquins. Cette autre-là n'existait plus lorsqu'elle pénétrait dans la cabine numéro 12 de la gare de péage de Villefranche-Lima. Ici, pendant les 7 heures que durait sa vacation, elle redevenait la Mathilde d'avant, celle qui se pomponnait, chantonnait, s'habillait avec autre chose que ses vieux joggings qu'elle portait à la maison. Ici, elle était la reine. Une reine qui, tous les jours, du haut de son trône, faisait défiler à ses pieds la foule bigarrée de ses sujets. Lorsque l'occasion se présentait, elle aimait contempler son reflet sur le flanc lisse des camionnettes, celui d'une Joconde nimbée de lumière, se souriant à elle-même. Le break jaune avait fait son apparition 2 mois plus tôt, au milieu du défilé hypnotique des véhicules. Un jeune représentant comme elle en voyait passer des dizaines par jour. Costard cravate, coupe de cheveux soignée. Mais le sourire franc et chaleureux qu'il lui avait offert n'avait rien de surfait et avait chauffé les joues de Mathilde. Le break jaune et son occupant étaient revenus le lendemain, puis le surlendemain. Tous les jours, l'homme empruntait cette portion d'autoroute, se glissait dans la file de la cabine numéro 12 et à chaque fois offrait ce même sourire qui venait illuminer son visage et embraser le cœur de la jeune femme. La semaine passée, au « Bonjour monsieur » de Mathilde, il lui avait dit qu'il s'appelait Jean-François. Elle n'avait pu s'empêcher de pouffer dans ses mains telle une ado écervelée. Lorsqu'elle s'était excusée en lui affirmant qu'il n'avait vraiment pas une tête à se prénommer Jean-François, il lui avait rétorqué en riant qu'elle ignorait qu'il existait des têtes à s'appeler Jean-François. « Et selon vous ?» avait-il demandé curieux. « J'ai une tête à m'appeler comment ?» Elle avait réfléchi quelques secondes avant de s'exclamer « Vincent !» Ouais, d'après elle, il avait une tête à s'appeler Vincent. Il avait éclaté de rire avant de lui avouer que Vincent était le deuxième prénom qui figurait sur ses papiers d'identité. « Mathilde vous va ravir !» avait-il lâché en fixant le badge accroché à son chemisier avant de redémarrer, pressé par le concert de klaxon qui montait de la file derrière lui. Mathilde ne vivait plus que pour cette brève rencontre qui, tous les jours, enchantait son existence. À l'approche de l'heure du passage du break, elle se surprenait à guetter dans la file l'apparition du véhicule. Et lorsque la tache jaune soleil apparaissait au loin, le pouls de la jeune femme s'emballait. « Arrête de te faire des films, ma vieille !» se disait-elle. « T'as lu trop de romances de gare !» Avant-hier, un petit mot accompagnait le ticket de péage qui lui tendait. Une invitation à souper vendredi soir, si elle était disponible. Et comment qu'elle était disponible ? Vendredi ou n'importe quel autre jour, comme il lui plairait, la nuit, le jour, toute la vie, elle était disponible. Sans attendre, elle avait lâché dans un souffle qu'elle acceptait l'invitation avant de lever la barrière, le feu aux joues. « Le moment de la confrontation a sonné, ma vieille », songea Mathilde. Tandis qu'elle vérifiait une dernière fois son maquillage dans le rétroviseur du plafonnier, au cours de sa rééducation, il avait fallu réapprendre les gestes. D'abord hésitant, ceci était revenu rapidement. Souligner les yeux d'un trait de mascara, lisser le fard à paupières avec la pulpe de l'index, frotter les lèvres l'une contre l'autre pour étaler uniformément le rouge sur toute leur surface. Se maquiller faisait partie de la thérapie. Lui avait-on seriné au centre de réadaptation. Apprivoiser sa nouvelle image, se réapproprier son corps. Il n'y avait que ces mots-là à la bouche. Après avoir fait coulisser la porte de sa voiture, Mathilde se contorsionna pour extirper le fauteuil rangé derrière elle. Les mois d'entraînement avaient fini par rendre les opérations presque naturelles. Déplier, abaisser, verrouiller. Des opérations bien ordonnées et répétées plusieurs fois par jour, au milieu des cliquetis métalliques qu'elle détestait par-dessus tout. À un an sous l'effort, elle agrippa la poignée située au-dessus de la portière et bascula son corps hors de la voiture en prenant appui de sa main libre sous l'accoudoir du fauteuil. La pluie avait faibli. La jeune femme posa son sac à main sur ses genoux, prit une profonde inspiration et s'élança en direction du restaurant. Dans son dos, les roues du fauteuil roulant dessinèrent deux balafres humides sur le macadam luisant. Une lumière savamment tamisée baignait l'intérieur de la salle. Le brouhaha feutré des conversations se mêlait à la musique de fond que diffusaient les haut-parleurs encastrés dans le plafond. Jean-François se trouvait à droite de l'entrée, assis à la première table. Un Jean-François dont la bouche était figée en un énorme « oh » de surprise à la vue du fauteuil et des deux membres atrophiés qui étaient devenus les jambes de la jeune femme. L'effarement allait bientôt laisser la place au dégoût et au rejet. Mathilde n'en douta pas un seul instant. Elle n'aurait jamais dû foutre les roues ici. Elle s'en voulait, ayant envie de hurler à la face du monde qu'elle n'y pouvait rien si la Miss Cotoreb qu'elle était dorénavant avait pris ses désirs pour des réalités, que c'était tout ce qui lui restait, des rêves, et qu'elle était désolée, Jean-François, vraiment désolée pour t'avoir joué ce mauvais tour, mais qu'elle avait voulu tenter sa chance. Voilà. Mais elle ne dit rien de tout cela, Mathilde. Alors qu'éclatait le rire du jeune homme, elle baissa la tête, bloqua la roue droite et poussa la gauche pour effectuer un rapide demi-tour en direction de la sortie. Des larmes plein les yeux, la gorge serrée, elle franchit la porte et roula en direction de sa voiture, activant ses avant-bras à toute vitesse. Ses mains entraînant les cerceaux d'acier insensibles à la pluie qui avait repris de plus belle. « Attendez Mathilde, attendez bon sang !» Elle s'arrêta au bout du parking, le cœur battant à tout rond, à bout de souffle. Les pneus chuintèrent désagréablement à ses oreilles, tandis qu'elle faisait volte-face. Jean-François déboulait à toute allure. Un Jean-François qui ne courait pas, mais qui roulait. Roulait vers elle, avec sur le visage, ce beau sourire qu'elle aimait tant, tandis que les roues de son fauteuil fendaient les flaques en projetant dans l'air de magnifiques gerbes d'eau.
Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice, des bisques, des crevisses, des rillettes de la Sarthe. Quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une meule, un coup de pompe en plein tagada. Sentir tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la chnouf et l'abadois, c'est bien plus bad que le foie d'oie en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. Une bonne paire de claques dans la gueule et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis. Quand elle a foutu le camp en emportant l'argent et la machine à coudre, en vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavée et le sel dans le sucre en poudre, quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre », on ricane et l'on pense, attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre? Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça te fera une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une meule, un coup de pompe en plein tagada. Tu t'ennuyais dans ma petite chambre, tu soupirais, tu voulais du nouveau. Dorénavant, de janvier à décembre, compte sur moi pour t'offrir un gogo. Une bonne paire de claques dans la gueule, et ça me consolera, ma chérie, des soirées où tu manœuvrais le rouleau à pâtisserie. Tu t'en souviens du rouleau à pâtisserie? Eh ben tiens donc, et vilaine, toi qui as abusé de mon cœur.
Diderot. Salon de 1767. Grande galerie éclairée du fond. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste. Il n'y a que le monde qui dure. Qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux extrémités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résigne à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère, en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent. Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière, et je ne veux pas mourir. Et j'en vis un faible tissu de fibres et de chair, à une loi générale qui s'exécute sur le bronze. Un torrent entraîne les nations, les unes sur les autres, au fond d'un abîme commun. Moi, moi seul, je prétends m'arrêter sur le bord et fendre le flot qui coule à mes côtés. Si le lieu d'une ruine est périlleux, je frémis. Si je m'y promets le secret et la sécurité, je suis plus libre, plus seul, plus à moi, plus près de moi. C'est là que j'appelle mon ami, c'est là que je regrette mon ami. C'est là que nous jouirons de nous, sans trouble, sans témoin, sans importun, sans jaloux. C'est là que je sonde mon cœur, c'est là que j'interroge le sien. C'est là que je m'alarme et me rassure,
de ce lieu, jusqu'aux habitants des villes, jusqu'aux demeures du tumulte, au séjour de l'intérêt, des passions, des vices, des crimes, des préjugés, des erreurs, il y a loin. Si mon âme est prévenue d'un sentiment tendre, je m'y livrerai sans gêne. Si mon cœur est calme, je goûterai toute la douceur de son repos. Dans cet asile désert, solitaire et vaste, je n'entends rien. J'ai rompu avec tous les embarras de la vie. Personne ne me presse et ne m'écoute. Je puis me parler tout haut, m'affliger, verser des larmes sans contrainte.
Bonjour, voici un poème que nous avons dit lors du récital Alzheimer 2019, dont les thèmes étaient « À nos jeunes années », consacré donc à l'enfance et l'adolescence. André Chénier en est l'auteur. André Chénier est mort à 31 ans sur l'échafaud, juste avant la fin de la Terreur. Tragique et injuste destin pour ce jeune et grand poète qui se vouait à la beauté. Euphosyne, le prénom qui sert de titre à son poème, est aussi harmonieux que le sont ses vers, et ses vers aussi beaux que les yeux d'Euphosyne. Mais Euphosyne n'a que 12 ans, et malgré son impatience et sa beauté, elle devra attendre un peu pour se faire aimer d'un avant. Un texte d'un érotisme discret. J'étais un faible enfant. J'étais un faible enfant, qu'elle était grande et belle. Elle me souriait et m'apprenait près d'elle. Debout sur ses genoux, mon innocente main parcourait ses cheveux, son visage, son sein. Et sa main, quelquefois aimante et caressante, feignait de châtier mon enfance imprudente. C'est devant ses amants, auprès d'elle confus, que la fière beauté me caressait le plus. Que deux fois, mais hélas, que sent-on à cet âge? Les baisers de sa bouche ont pressé mon visage, et les bergers disaient, me voyant triomphant, « Oh, que de bien perdu, ô trop heureux enfant !»
Fin de ce nouvel épisode du Printemps des Poètes confinés, émission participative. N'hésitez pas à envoyer vos lectures à melissa@radiocampustour.com. Je vous souhaite à tous la meilleure des journées possibles et je vous dis à bientôt. ¶¶